Au flux et à mesure, le magazine de Jet FM, du lundi au vendredi à 18h. Vendredi, des productions indépendantes et militantes d'ici et d'ailleurs.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Au flux et à mesure, nous vous proposons d'écouter une création documentaire de Muriel Kaes intitulée Charonne. En effet, le 13 février 1962 se déroulait à Paris un des plus grands rassemblements populaires du XXe siècle, les obsèques des 9 manifestants tués au métro Charonne lors d'une manifestation pour la paix et contre le fascisme le 8 février 1962. Cette création documentaire vient clôturer la semaine spéciale consacrée à la guerre d'Algérie. Bonne écoute!
Aussi, on a été marqué par les manifs pour la, contre la guerre d'Algérie.
Ben moi,
et Charonne en particulier.
J'ai assisté à Charonne. J'ai suis d'ailleurs, j'ai été blessé sérieusement. Je me suis même retrouvé à l'hôpital d'Argenteuil.
C'est là qu'on a dit que jamais on ne participerait à une manif tous les deux ensemble et en vous laissant à la maison. Parce que comme il y a eu des morts...
Eux, ce sont mes parents. Celle qui me raconte leurs souvenirs de militants communistes, c'est ma mère. Lui, c'est mon père. Il s'appelle José Luis Sanchez. Il a alors 88 ans et il avait 32 ans lors de cette manifestation à Charonne, le 8 février 62.
Donc, c'était une manifestation et à un moment donné, les forces de police ont bloqué la rue et la manifestation s'est arrêtée. Alors nous, on attendait, et puis d'un seul coup, il y a eu des policiers qui sont avancés pour faire reculer la manifestation. Et à ce moment-là, bon, il y a eu des bagarres en première ligne, peut-être à 10 mètres, je ne sais pas quoi. La manifestation a reculé, poursuivie par les flics, et par conséquent, on s'est retrouvé reculé comme ça, jusqu'au moment où on est arrivé à hauteur d'une entrée de métro. Et il y a les gens qui se trouvaient en face de l'entrée de métro. On basculait dans le métro, carrément. Et moi, j'étais coincé entre la bouche du métro dans laquelle je n'étais pas tombé et les immeubles. On était coincés les uns sur les autres. Et les flics nous tapaient dessus. Y compris avec les rondelles qu'on met au pied des arbres. Ils nous balançaient ça sur le... Donc je suis sorti de là. J'avais perdu une chaussure. J'ai marché. J'ai trouvé une nouvelle station de métro. J'ai descendu. Et là, il se trouve qu'un gars d'Argenteuil qui passait dans le coin m'a vu et m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, viens avec moi. » Donc, il m'a ramené jusqu'à l'hôpital d'Argenteuil.
J'avais 3 ans en 1962. Et ces images de Charonne sont mon premier souvenir. L'attente, inquiète, le soir, le retour tardif de mon père, les cheveux collés par le sang, fatigué, tendu. Il est passé par l'hôpital, faire vérifier son cuir chevelu ouvert.
Ben oui, parce qu'on nous avait tapé dessus.
Mais surtout, il a perdu une chaussure et son manteau est déchiré.
Par-dessus était décousu, toute la couture du milieu du dos était décousue.
Oui, ça c'est sûr.
Un manteau comme ça, c'est un mois de salaire, dit ma mère. Je m'appelle Muriel. Mes parents m'ont toujours dit que ce prénom venait du titre du film de René, où d'ailleurs, on ne voit jamais Muriel. Mais ce film est coupé en deux par des images de ce qu'on appelle alors les événements d'Algérie. Et moi, c'est Charonne qui a coupé en deux mes souvenirs d'enfant.
Mais il y a eu Charonne quand même. Qu'est-ce qui peut nous parler de Sharon? L'année dernière, en février, le 8 février, ça vous dit plus rien?
Si,
moi, en février, j'étais malade. Pascal, tu veux nous expliquer ce qui s'est passé?
Extrait de Diabolomante.
C'était quand il y avait tous les plastiques à Joës, dans Paris. Il y avait eu une manifestation contre les attentats. On habitait boulevard Voltaire à l'époque. C'est comme ça que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de monde. Avec mon père, on était sur le balcon. On criait des slogans avec les manifestants. C'est quand les gens ont commencé à partir que les flics ont chargé. Ils sont devenus complètement enragés. Ils sont mis à cogner dans tous les sens. Mon père a fermé la fenêtre. Même avec les fenêtres fermées, on entendait les gens crier. Quand on est ressorti, il n'y avait plus personne. Et par terre, il y avait des chaussures. Plein de chaussures. Sur les trottoirs, dans les caniveaux. Il y avait des gens qui les ramassaient. Le lendemain, on a appris que tous ceux qui avaient voulu se réfugier dans le métro s'étaient retrouvés coincés par des grilles fermées. Et que les flics leur avaient balancé des grilles d'arbres, des bancs, tout ce qui leur tombait sous la main. À la fin, ils avaient relevé 7 morts.
J'étais fan d'Elvis Presley, on jouait au flipper dans les cafés. Il y avait ce côté heureux, quoi. Et puis d'un autre côté, c'était plombé.
Maryse Dweck, 17 ans en 62, manifestante.
C'est-à-dire politiquement, c'était plombé par la guerre. Et c'était très raciste, parce que bon, là où maintenant on voit des nouveaux immeubles, c'était les usines Renault, tout le monde disait, ah, si tu sors le soir, les Algériens vont t'attaquer. Il y avait une ambiance anti-algérienne qui était liée à la guerre, où on nous faisait peur. On devait avoir peur des Algériens.
Du point de vue des manifestations, on est dans une époque que les acteurs...
Sylvie Thénault. Historienne, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne.
Les contemporains, ceux qui ont vécu cette histoire, décrivent souvent comme une atmosphère de quasi-guerre civile. Donc je crois qu'il faut imaginer, en particulier à Paris, une ambiance très tendue. En fait, depuis le 17 octobre 1961, il y a un cycle de manifestations qui ne s'est pas interrompu. Des manifestations contre l'OAS, qui de son côté fait des attentats en métropole.
OAS, Organisation de l'Armée Secrète.
Alors, l'objectif de l'OAS,
Olivier Dard,
c'est
historien.
Exclusivement la défense de l'Algérie française, une défense qui doit se mener jusqu'au bout du combat. Jusqu'au bout du combat, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une lutte qui engage l'OAS à la fois contre le FLN, mais également contre la Ve République.
On était tous des gaullistes, on a fait venir De Gaulle pour qu'il nous sauve, et puis De Gaulle, il nous a menti, De Gaulle, il nous a trahis.
Des anciens de l'OAS, interrogés par Charlotte Perry.
Et puis, nous sommes arrivés au moment où, du 13 mai 58. Alors, il faut vous dire qu'autant que nous sommes ici, aujourd'hui anti-gaullistes, nous avons été super gaullistes, parce que c'est nous qui l'avons mis au pouvoir. Hein, le 13 mai 58, c'est la Gaillarde et nous, qui avons pris le gouvernement général, pour remettre les clés de la ville d'Alger, donc de la nation, à M. Charles de Gaulle. Alors, il ne peut pas exister plus gaulliste que nous. Malheureusement, ce monsieur que nous avons mis au pouvoir, en qui nous croyons, nous a trahis.
Quand vous avez 19 ans, et qu'un homme, un grand homme d'État vous dit l'Algérie, c'est la France, l'Algérie restera française, le drapeau FLN ne flottera jamais sur Alger, vous vous rendez compte, à 19 ans, tous ces jeunes. On est fou de ça.
Il apporte avec lui cet immense réconfort.
Je vous ai compris.
Cet immense programme.
D'un seul coup, un an après, il tourne de la veste. Alors là, non, moi non plus, là, je comprends pas. Alors je me révolte contre lui. En fin de compte, je me suis plus battu contre De Gaulle que contre le FLN.
Il y a eu des associations qui se sont montées de défense des Français d'Algérie pour essayer de garder l'Algérie à la France, qui étaient des départements français, hein, ce n'était pas n'importe quoi, c'était donc la France. Nous avons essayé de la défendre, et avant qu'il y ait tout ça, le trois quarts de nous qui sommes ici, nous avons défendu l'Algérie française dans l'armée. Nous avons tous été appelés dans l'armée, principalement dans les groupes parachutistes, ici, tout le monde est là,
la
autour.
Voix de l'Algérie française.
Émission clandestine de la radio de l'OAS, 13 janvier 1962.
S'il nous faut aller plus loin, nous procéderons alors vraiment à la politique de la terre brûlée. Nous incendierons tous les puits de pétrole et tous les puits de gaz. Nous minerons les barrages. Nous détruirons les usines électriques, les usines gazières. Nous indiquerons à chaque particulier d'avoir sous la main une vingtaine de litres d'essence pour brûler tous les meubles qu'ils ne pourront pas emporter. Une chose est donc certaine. Nous ne laisserons rien ici si nous devons partir.
L'année qui précède Sharon, c'est la montée en puissance de l'OAS. Les attentats, l'histoire de Debré, la tentative de coup d'État, etc. Donc on vit avec l'impression qu'il y a un danger fasciste, de coup d'État, de prise de pouvoir, de putsch. Ça faisait presque un an, plusieurs mois, où il y avait presque une manifestation par mois, toujours interdite, toujours assez violente, avec des cordons de policiers, etc. Donc ce n'était pas du tout ma première manifestation.
Là, on est dans un contexte où...
Fabrice Rissé-Pouty, historien spécialisé dans l'histoire coloniale.
Il y a une véritable inquiétude sur la question du fascisme, hein, puisque, à tort ou à raison, on estime qu'il y a véritablement à ce moment-là un danger fasciste, puisqu'il y a eu, en avril 61, le putsch des généraux à Alger, qui a échoué, mais qui a montré qu'il y avait encore un danger factieux extrêmement important dans l'armée française. Il y a aussi une police dont on n'est pas absolument certain de la loyauté au régime républicain, etc. Donc, il y a vraiment une crainte du fascisme. Et la manifestation de Sharon, c'est bien sûr avant tout une manifestation antifasciste.
On a monté un cercle antifasciste quand on était en seconde, déjà un an avant la manifestation.
Et pourquoi un cercle antifasciste ?
Mais parce que la dimension fasciste a pris de plus en plus d'importance, c'est-à-dire à cause de l'OAS.
La liste des explosions s'allonge. L'OAS comprendra-t-elle la criminelle folie de ces méthodes aveugles qui heurtent toutes les consciences ?
Ce qu'espère l'OAS, c'est déclencher véritablement une guerre civile pour mettre en... Alors, c'est un côté quand même un peu désespéré à ce moment-là. Hein. Les chefs de l'OAS savent bien que tout est cuit depuis longtemps, mais ils sont d'un cynisme extraordinaire et continuent à manipuler leurs troupes. Alors, que ce soit en Algérie, où ça va donner des événements extrêmement graves en 62, ou en métropole, il s'agit de tenter de mettre en échec un processus d'indépendance de l'Algérie qui est pourtant clairement... inéluctable. Et l'OAS joue aussi beaucoup de l'anticommunisme. Il faut se rappeler qu'on est à une période de guerre froide où beaucoup de gens interprètent, par exemple, les mouvements nationalistes comme celui des Algériens, comme étant une manipulation du communisme international et placent donc la lutte contre les rébellions indépendantistes dans un contexte de lutte contre le communisme. Et ça joue un rôle important dans la propagande de l'OAS.
Je pense que dans la mobilisation de ce début février 1962, il y a une double dimension. Il y a la dimension contre l'OAS et contre les violences de l'OAS. Et puis, il y a aussi, vis-à-vis du pouvoir, d'exercer une forme de pression en disant « Mais dépêchez-vous, il faut absolument que ça aboutisse cette fois-là. Hein » Les délégations françaises et algériennes étaient en train de discuter à Évian. Mais en fait, depuis 2 ans, depuis 1960, il y a eu plusieurs fois des négociations qui n'ont pas abouti.
Les attentats du 7 février 62.
Thank you.
campagne du plastique continue. Cette offensive en visant M. André Malraux a fait la plus pitoyable des victimes, une fillette de 5 ans qui a failli perdre la vue.
Le 7 février 1962, j'ai eu la chance de survivre à un attentat de l'OAS dirigé contre André Malraux. J'avais 4 ans. Le lendemain, 9 personnes étaient tuées par la police, ici même au métro Charonne, en répression d'une manifestation pour la paix.
La manifestation.
Il y a eu beaucoup plus de monde, parce qu'il y avait eu l'attentat contre la maison d'André Malraux, je crois que c'était à Boulogne d'ailleurs, et la petite Delphine Renard qui a eu les yeux abîmés. Donc il y a eu un mouvement, ça s'est décidé je crois de la veille au lendemain. Extrêmement spontané, c'était pas une manifestation, il y a eu des tracts qui ont été distribués, allez-y. Tout s'est fait les gens se sont passés, c'est pas comme dans la clandestinité, mais c'est les téléphones, on y va. Quoi. Et donc il n'y avait pas de rendez-vous, puisque c'était interdit. Et nous, on était hors des organisations, on est allé au pif un peu, et on cherchait les manifestations à l'oreille, en se disant, ah, ils sont par là. Ah, c'était une manifestation pacifique, hein. Absolument pacifique. On est partis en groupe et quand les événements les plus graves sont arrivés, on était dispersés, nous, on s'était perdus les uns les autres. Quoi. Tellement il y avait de monde parce qu'il y a plusieurs cortèges qui se sont réunis.
J'étais lycéen.
François Caldor.
Dans la classe de première.
17 ans, 62.
Lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine.
Manifestant.
Nous avions créé un comité antifasciste. Une partie de la jeunesse qui allait aller sous les drapeaux se poser quelques questions sur ce qui se passait et sur la légitimité de la guerre qui était menée. Nous avions été à un point de rendez-vous qui se situait vers la rue Crozatier, par là, et je me souviens donc avoir déambulé dans une rue qui arrivait en épi vers le boulevard Voltaire. À un moment donné, la manifestation s'est formée donc sur le boulevard Voltaire. À un moment donné, j'étais le regard vers la Nation et la place Voltaire m'était derrière moi.
Aux actualités, voici ce qu'on entendait.
Les manifestants se sont emparés de pierres et de bouts de macadam et les jettent sur le service d'ordre qui charge avec des bâtons longs d'un mètre. Pourquoi vous avez des cailloux dans la main? Parce que les flics nous ont frappés tout à l'heure.
Et à un moment donné, nous avons vu une masse en rang de policiers avec les pèlerines, non pas les CRS, mais les policiers de la préfecture de police, hein, je dis bien, et donc avec d'immenses matraques qu'on appelait les bidules, et qui étaient vraiment très très impressionnantes, et qui ont commencé à charger. Il y a eu à un moment donné un cafouillage complet sur la charge, j'ai perdu le copain avec qui j'étais, et donc, je sais pas, j'étais à 20 mètres du contact de la charge.
Tiens, regarde des matraques, t'as vu là ? C'est ce qu'ils appelaient des bidules. C'est ni plus ni moins qu'un manche de pioche, hein. Tu vois, la longueur ?
Bête de baseball plutôt que matraque en caoutchouc, hein. Pour faire mal. Pour faire mal et frapper. Pas pour maintenir l'ordre, hein.
Les gardiens de la paix sont armés d'une arme létale qui est le bidule. Le bidule, ce n'est pas un petit bâton. Le bidule, c'est un manche de pioche qui casse des crânes.
Emmanuel Blanchard, historien spécialisé dans l'histoire des polices et des colonisations.
C'est le général de Gaulle qui doit faire sortir de la guerre et il doit en faire sortir en position de vainqueur. Ça veut dire qu'il est prêt à ce que le préfet Papon et sa police soient très offensifs, hein, à la fois du point de vue juridique au travers des interdictions de manifestation et dans un maintien de l'ordre qui soit un maintien de l'ordre violent. Et ça, le général de Gaulle, d'une certaine façon, lui est prêt à cela, car le général de Gaulle, c'est un militaire. Un militaire qui, depuis des années, quand il parle de la sortie de guerre, d'une certaine façon, est très clairvoyant. Il dit à un certain nombre de ses interlocuteurs, nous allons aller vers l'indépendance de l'Algérie, mais cela ne se fera pas sans heurts, cela ne se fera pas sans casse.
La violence.
Il n'y avait eu aucun mouvement précédemment qui pouvait laisser penser que ça allait dégénérer. Donc, bousculade.
Alain Jeancou, j'ai chuté manifestant.
Avec beaucoup d'autres. Je suis resté au sol. J'ai choisi, c'est peut-être ce qui m'a sauvé, de faire le mort.
D'un seul coup, les flics avec leur bidule, on a couru.
J'ai vu une panique de foule qui a reflué, qui a changé de sens. Et qui m'a poussée vers le métro. Parce que la charge avait commencé plus loin. Et comme la station de métro était juste là, la foule, je suis tombée dedans.
On était serrés, mais comme des sardines, vraiment. Et en courant comme ça, je cours, et tout d'un coup, je ne sens plus rien sous mes pieds. Et j'arrive vraisemblablement là où tout le monde était déjà en train de tomber.
Marina Vladi.
Donc je suis tombée.
Manifestante en 62.
Avec cette foule, cette masse de gens qui couraient de côté et qui tombaient dans le trou. Alors peut-être que les premiers ont voulu se cacher dans le métro, mais comme ils ont été poursuivis par d'autres gens qui couraient de plus en plus vite, parce qu'évidemment, les flics tapaient, ça hurlait, les femmes perdaient leurs chaussures. Enfin. Et donc je me suis trouvée prise dans cette espèce de marée humaine qui a fait comme des vagues. C'est-à-dire qu'on tombait, les gens nous tombaient par-dessus. Et moi, je me suis débattue et vraisemblablement, j'ai dû marcher sur des gens. J'ai réussi à m'extraire et on s'est retrouvés à deux ou trois dans un métro où les gens étaient assis tranquillement en lisant leur journal. Et on était là, hors d'haleine. Bon, on a été sauvés, mais les autres sont restés écrasés.
Bah, vous arrivez là, il y a du monde partout. Vous descendez dans le métro, je descends dans le métro, moi. Et je me retrouve à...
Des manifestants.
Sur la troisième ou quatrième marche, quoi, avec...
Tout en bas,
quasiment.
Interrogé par Daniel Kupferstein, Mourir à Charonne, pourquoi ?
C'est-à-dire 10-12 rangs plus haut, quoi. Il y avait au moins 40 personnes empilées en touche.
Voilà, il y avait une succession de corps les uns sur les autres, là.
Serré par des couches de gens dessus, dessous, hein. Ouais.
Moi, j'avais la tête qui sortait du paquet de
du mort, corps, ça fait un mur. Hein.
Et je regardais ce qui se passait en haut, j'avais la tête. Et je voyais les flics qui étaient là, autour, oui. Et qui tapaient avec leurs bidules. Et
sur
qui,
les gens.
Et j'ai vu jeter des grilles d'arbres sur les manifestants. Voilà. Et ils étaient là, tout autour. Et ils tapaient, et ils tapaient, et ils tapaient.
Et il y avait un tas de copains qui étaient aussi hauts que le plafond, là, hein, qui étaient entassés dans l'entrée. Et les flics, on les voyait.
Francis Poulain.
Nous, on était protégés parce que, tu vois, le métro, l'entrée avançait un peu.
Militant syndical.
Sur l'escalier. Et nous, on était protégés. Par contre, tes copains qui étaient dans l'escalier, eux, ils n'étaient pas protégés. Ils leur balançaient des grilles d'arbres, des guéridons de bistrot, de tout ce qui tombait sous la main. Ils les matraquaient à mort. Et nous, on avait du mal à les dégager parce qu'il fallait commencer à dégager ceux du dessus. Et on n'arrivait pas à les dégager. Et à force, on a réussi à en dégager. Par en dessous, c'était pas possible. Pas possible. Fallait commencer à dégager au-dessus. Et les flics, ils nous en empêchaient, ils tapaient dessus. Alors on a réussi quand même, malgré tout, à les dégager du dessus, à les faire descendre. Puis le copain qui avait la tête... Il y avait des copains qui avaient la tête en sang, d'autres qui avaient les bras cassés. Et à partir de là, nous, on leur disait de foutre le camp, de s'en aller, quoi. Hein.
Je suis sorti, j'avais du sang, c'était pas le mien. Donc je pense qu'il y a eu des blessés. En dessous, moi j'étais en sandwich entre des gens en dessous et des gens au-dessus. Donc on dit qu'ils ont envoyé des grilles. J'ai rien vu de tout ça, moi. Et je me rappelle pas des bruits. J'avais qu'une idée, respire. Si tu respires pas, tu meurs. Donc trouve-toi un endroit et attends. Et bouge pas. Et j'ai été sortie en bas, puisque j'étais très en bas, par des gens qui nous ont sortis de là, qui nous ont emmenés sur le quai du métro, où le métro passait, comme d'hab, avec des gens qui regardaient ce qui se passait un peu sur le quai, mais j'étais une des premières sorties. Et là, j'ai retrouvé un copain du lycée, et on a fait quelques stations de métro, on est revenu, je pense, vers République, et puis on est monté, on a pris, je sais plus à quelle station, on a pris son scooter, et l'avenue était jonchée de chaussures, ça faisait un peu scène de guerre, quoi. Mais je ne savais rien. Je ne savais rien du tout. Je savais simplement que j'avais été écrasée. Je ne me rappelle pas du temps que ça a pris.
Je me suis réfugié à un moment donné dans un bistrot où il y avait déjà quelqu'un de blessé. et je crois que c'était un photographe. Et donc, je me suis dirigé vers la place Léon Blum, Voltaire, comme vous voulez. Je suis resté sur le côté droit, en train de regarder vers la rue de la Roquette. Et là, j'ai vu un quart de policiers, d'où sortaient des policiers que j'ai vu faire feu en l'air. Hein. Je me souviens avoir vu quelqu'un tirer, peut-être pour se dégager des manifestants, j'en sais rien. Et il y a quelqu'un qui a perdu les pédales et qui a commencé à faire usage de son arme.
Alors, si on veut essayer de comprendre ce qu'est et ce que fait la police parisienne en particulier, il faut avant tout revenir au mandat qui lui a été donné. C'est-à-dire qu'il y a ici un mandat qui est donné par l'exécutif, le président de la République et le Premier ministre à un préfet de police, Maurice Papon, un mandat qui est double. Un premier volet qui est de démanteler la Fédération de France du FLN pour permettre à la France d'arriver en position de force à la table des négociations et éviter que le FLN soit un interlocuteur reconnu et surtout pas unique dans ces négociations. Ce sera un échec. Puisque notamment après la manifestation du 17 octobre 1961, qui a massacré, mais dont il faut aussi rappeler qu'elle est une victoire politique. Le FLN peut revenir seul à la table des négociations qui vont reprendre et aboutir à partir de février 1962 aux accords d'Évian. Le deuxième volet de ce mandat, qui est parfois un peu oublié, c'est de démanteler l'OAS, de protéger le général de Gaulle contre l'OAS. Le général de Gaulle, dont il faut se souvenir qu'en septembre 1961, il est encore victime d'une tentative d'assassinat de l'OAS, et ces attentats ne sont pas des attentats d'opérette. Pour le général de Gaulle, c'est à la fois un danger pour sa personne, mais un danger pour les institutions, parce qu'il a très peur que, comme en Algérie, elle gangrène l'armée et surtout la police. Ça signifie qu'on a une police à qui il est demandé d'être extrêmement offensive sur deux fronts, et qu'en même temps, il est demandé au préfet de police, Maurice Papon, de tenir ses hommes. Non pas tant dans le rapport à la violence, puisqu'au contraire, il y a une grande tolérance pour les dépassements de la violence, et Maurice Papon avait très clairement dit qu'elle serait couverte. Il y a l'idée qu'on ne peut pas aller chercher des poux dans la tête à des policiers qui, en 1958, s'étaient rebellés contre les institutions de la 4e République. La 4e République, elle s'effondre avant tout parce que l'armée ne la soutient pas, et c'est ça qui amène au pouvoir le général de Gaulle. Elle s'est effondrée aussi parce que la police ne la soutenait plus. Et donc, il ne s'agit pas ici que la police se retourne contre les institutions de la 5e République, cette fois, et contre le général de Gaulle, à une époque où l'armée est elle-même rentrée en partie en rébellion contre ces institutions de la 5e République.
Parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas cette violence. Les flics tapaient autrefois. Mais cette violence, ce déchaînement, alors bah, disons, bu, ils ont été... Et en fait, j'ai compris ça très récemment. Que les compagnies de district, qui ont disparu depuis, c'était la recherche de volontaires dans les commissariats. Il y avait peut-être des unités régulières, mais il y avait une grande part des policiers qui avaient été volontaires pour faire ça. Je crois que ce n'était pas les CRS.
Mais pourquoi la police a-t-elle été aussi violente ?
Il ne faut pas imaginer des ordres donnés d'être particulièrement violents. Il y a des ordres qui demandent à ce que la manifestation soit empêchée. Mais le préfet Papon sait qu'il a une police qui est travaillée dans certaines de ses composantes par l'anticommunisme et par le racisme. Mais là, il a besoin de ses policiers. À l'automne 1961, la police parisienne perd presque une dizaine d'hommes dans des attentats et des affrontements avec le FLN. Donc évidemment, dans ces moments-là, quand vous demandez à des forces de l'ordre de contenir des manifestations interdites, il y a la possibilité que ça débouche sur des violences. Même si, à Charonne, les violences létales ont été concentrées sur quelques minutes, entre 19h30 et 20h, un peu moins même, et par une compagnie de district qui va faire preuve d'une violence qu'on pourra qualifier de sauvage.
Le triste bilan des manifestations d'hier au soir à Paris est le suivant.
Roger Frey, ministre de l'Intérieur.
Du côté des forces du maintien de l'ordre, 140 blessés. Du côté des manifestants, 110 blessés connus. 5 décédés, étouffés ou piétinés par la foule, et 3 morts des suites de heurts avec la police.
Et après ce terrible bilan, que s'est-il passé?
J'ai participé ensuite aux obsèques des gars qui avaient été tués. Ça a été une manifestation sensationnelle.
Les obsèques.
À ces 8 victimes, Paris a fait les funérailles les plus éloquentes. De la Bourse du Travail où les cercueils avaient été exposés et avaient reçu un premier hommage, jusqu'au cimetière du Père Lachaise, une foule immense dont le nombre peut s'évaluer à plusieurs centaines de milliers de personnes a suivi le cortège. Cortège silencieux seulement ponctué des accents d'une marche funèbre et dont nul cri, nul incident n'a troublé le déroulement.
On ne peut pas parler de Charonne sans parler de l'enterrement quelques jours après, qui est suivi par un cortège absolument énorme dans Paris et où on a une démonstration unanime de réprobation de la violence de l'OAS et en même temps une démonstration aussi de l'état de dépérissement, de l'état des libertés publiques en France et des dangers que la guerre, la poursuite de la guerre fait courir sur les libertés en France même. Hein. Il y a un argumentaire très présent à ce moment-là qui est de dire que la poursuite de la guerre met le régime républicain en péril, non seulement parce qu'il y a eu des tentatives de renversement, mais aussi parce que les libertés reculent et que finalement il y a un transfert de la violence à Paris même. Voilà une répression qui nous montre ce que le danger que représente la poursuite de la guerre, et donc ça peut hâter l'idée qu'il faut en finir.
Et ce qui rassemble, c'est moins l'idée d'indépendance de l'Algérie que l'idée de paix en Algérie, d'arrêt de la guerre. Hein. Cette fréquentation des obsèques, ça démontre aussi l'ampleur du ras-le-bol dans la population française de la guerre et de toutes les violences qu'elle implique maintenant, y compris en métropole, ce qui est relativement récent. Quoi. Bon,
L'hommage du 13 février, ce sont des obsèques nationales, mais des obsèques nationales qui sont des obsèques populaires, qui ne sont pas pris en charge par l'État. Il y a un hommage, il y a un défilé funèbre, une panthéonisation ouvrière qui va marquer la France entière, et pas simplement la France communiste. Notamment parce que dans cet instant-là, il ne s'agit pas de mettre en cause, il s'agit de se réunir dans la mémoire. Et les personnes sont là en hommage aux victimes, même si les tueurs ne sont pas désignés ce jour-là. Des victimes d'affrontements qui sont des affrontements franco-français qui divisent profondément la France.
Cette mémoire m'a profondément marquée. Bien sûr, je suis allée moi-même dans des manifestations. Mais j'ai une peur panique des mouvements de foule. Je suis terrifiée par les policiers du maintien de l'ordre. Et je pars toujours avant la dispersion.
Petit à petit, j'ai réalisé l'événement. Je l'ai vécu dans ma chair. Et je l'ai vécu dans la politique. Je n'ai pas pris le métro pendant 30 ans, peut-être. J'avais peur de la foule. Au cinéma, j'étais à une place près de la sortie. J'avais beaucoup de crises d'angoisse. Ça passait beaucoup par le corps. Donc je pense que j'ai eu des séquelles profondes liées au refoulement. Et au fait qu'on ne pouvait pas élaborer. Et puis qu'il n'y avait personne pour commémorer ça, que le mouvement ouvrier, puisque ça n'avait pas de statut. C'était une manif interdite. Tout le monde a été amnistié. Voilà. Donc c'est une espèce de non-événement officiel que les gens ont vécu dans leur intimité.
Un crime d'État.
Il s'agit de taper des deux côtés, quoi, de l'échiquier, si on peut dire, hein, à l'extrême droite sur l'OAS et à gauche sur un mouvement qui est considéré comme un mouvement communiste. Bon, c'est ça probablement l'explication politique. Et donc, il y a une cohérence, hein, dans ce crime d'État qui n'est pas le fait, donc, c'est pas une bavure, hein, c'est le fruit d'une politique, une politique de maintien de l'ordre également, bon, plus précisément, quoi.
C'est un crime d'État au sens où tous les responsables de l'époque, il n'y avait aucune enquête, aucun statut de victime, aucune indemnisation, rien du tout, quoi. Pas de reconnaissance officielle. Il faut que ça soit reconnu comme octobre devrait être reconnu comme un crime d'État, puisque à l'époque, les institutions républicaines, eh ben, elles vacillaient. Hein.
Et pourquoi a-t-on dit que c'était, outre un crime d'État, un mensonge d'État ?
Une enquête judiciaire est ouverte sur les conditions dans lesquelles
Roger Frey,
cette manifestation non autorisée a été organisée et s'est déroulée.
Ministre de l'Intérieur en 62.
On portera notamment sur les circonstances dans lesquelles sont intervenus les décès.
Les violences létales ont été concentrées dans un endroit très précis. Pas simplement des escaliers ou une grille de métro aurait été fermée. Les grilles du métro sont ouvertes.
Moi, je ne fais pas de différence entre pousser des gens qui vont s'entasser dans une situation sans issue et l'agression. Et je dirais même que c'est d'une certaine perfidie, d'un certain degré.
Alain de Verpe, historien et fils d'une des victimes de Charonne, a rédigé un livre qui représente une somme et la référence absolue sur ce sujet, et qui a constitué mon livre de chevet ces derniers temps. Charonne, 8 février 62, Anthropologie historique d'un massacre d'État. Il figure dans ce livre un certain nombre de témoignages et de déclarations faites dès le lendemain de la manifestation.
Michel Debré, Premier ministre, déclare: alors que la dispersion des manifestants est engagée, un mouvement de foule incontrôlé pousse des manifestants vers la bouche du métro Charonne, dont les grilles sont fermées. 8 victimes sont écrasées contre les grilles du métro. Maurice Papon, préfet de police, déclare: les grilles sont fermées comme dans les autres stations desservant les lieux de rassemblement.
En réalité, toutes les enquêtes, y compris auprès de la RATP, montre que les grilles étaient ouvertes à la station Charonne. Mais le récit était écrit et les grilles fermées se sont inscrites dans la mémoire comme responsables des morts de Charonne.
Il y a eu les amnisties successives, l'amnistie de 1962, l'amnistie de 1964.
Benjamin Stora, historien.
L'amnistie de 1968.
Spécialiste du Maghreb et des guerres de décolonisation.
Et puis il y a eu la grande amnistie de 1982, de novembre 1982, qui a permis la réintégration, disons, des officiers putschistes dans l'armée française.
La mémoire de Charonne.
À partir de cette mobilisation autour de l'inhumation des victimes de Charonne le 13 février, eh bien c'est Charonne qui devient le symbole de la répression policière à Paris pendant cette guerre d'indépendance algérienne. Tant que le Parti communiste français a représenté dans la société française une force politique majeure, de premier plan, on l'a oublié aujourd'hui, eh bien Charonne a été commémorée. Et ce qui explique l'atténuation progressive et puis finalement la disparition de Charonne dans les commémorations, c'est d'une part le déclin du PCF, mais aussi d'autre part parce que dans le mouvement antiraciste français qui se construit pour s'opposer au Front National, eh bien c'est le 17 octobre 61 qui devient signifiant. Parce que en gros, c'est l'exemple de ce à quoi le racisme peut nous mener, c'est l'exemple que le racisme peut être meurtrier. Et donc, à la fin des années 80, début des années 90, donc on a un chassé-croisé dans l'autre sens, et où le 17 octobre 61, du coup, refait surface, tandis que Charonne progressivement s'estompe.
Benjamin Astora a été chargé par le président Macron de rédiger un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie.
J'ai pas mal hésité avant de faire ce rapport qui m'avait été proposé par le président de la République à l'été 2020. J'ai rendu ce rapport quelques mois plus tard, en janvier 21, très exactement il y a un an. Alors sur les points pratiques qui ont été réalisés cette année, puisque ça fait un an, donc on peut faire une sorte de bilan très rapide.
Ce rapport se termine par de nombreuses préconisations, à la fois d'événements à commémorer, de gestes mémoriels, de création de groupes de travail et de partage de travaux universitaires.
Plusieurs de ses recommandations ont été suivies des faits, comme l'hommage rendu aux victimes de la manifestation du 17 octobre 61, ou la construction à Amboise d'une stèle à l'émir Abdelkader, figure de la résistance algérienne à la colonisation. Ce monument a d'ailleurs été dégradé avant même son inauguration, ce qui lui a donné une couverture médiatique qui n'aurait peut-être pas eu sens.
Et puis, il y a quelque chose qui ne figurait pas dans mon rapport et que j'ai mentionné dans, disons, pour de prochaines initiatives, c'est en particulier ce qu'on pourrait appeler la mémoire communiste. Je plaide pour qu'il y ait une reconnaissance publique du massacre de Charonne le 8 février 1962. Donc, il y a une déclaration officielle de l'Élysée ou du président de la République sur ce qui s'est passé à Charonne, où, comme vous le savez, bien sûr, il y a eu, disons, 9 manifestants qui ont été tués à cette manifestation contre l'OAS à Charonne.
Et du coup, un événement comme Charonne, c'est une mémoire qui disparaît, parce qu'en fait, c'est la mémoire de la discorde, c'est la mémoire du déchirement. Quelle place on fait au déchirement? Il n'y en a plus. Alors, dire mémoire communiste... Peut-être, si on pense au fait que les commémorations ont été portées par les communistes, ce sont eux qui les ont organisées, qui ont fait exister l'événement dans l'espace public.
Benjamin Stora a été entendu. Ce 8 février 2022, la présidence de la République a publié un communiqué de 5 lignes rendant hommage aux victimes de la manifestation. Une gerbe a par ailleurs été déposée sur le monument aux victimes, au Père Lachaise, par le préfet Lallemand.
C'est vrai que l'événement a perdu du sens au présent. On a du mal à lui donner du sens au présent, parce qu'aujourd'hui, sur la thématique des violences policières, on est occupé par la dimension raciste des violences policières, et cette dimension-là, elle n'existe pas à Charonne. Donc Charonne a du mal à prendre du sens aujourd'hui.
Pas de victimes autres que françaises et communistes à Charonne ? Le 10e mort de Charonne.
Pour finir, je voudrais rappeler que s'il y a eu officiellement 8 puis 9 victimes communistes et cégétistes, il faut aussi se souvenir qu'il y a sans doute eu une 10e victime de Charonne. Et cette 10e victime de Charonne, elle renvoie à cette autre composante idéologique et confrontationnelle de la police de l'époque, c'est le racisme et les affrontements avec le FLN. Cette 10e victime, c'est un travailleur algérien de la RATP qui ne participe pas à la manifestation, mais qui, en sortant de son travail, va être pris dans ce qu'on appelait à l'époque les courettes, quand des policiers courent matraque à la main pour attraper des manifestants, et matraquent un peu tout ce qui se trouve sur leur passage. Cet Algérien, sans doute visé délibérément, a le crâne fracassé ce soir-là et décédera des années après de ce qui a été considéré comme des suites de ces blessures.
Je me suis construite avec cette image d'un État menaçant. Et, je dois le dire, cette idée m'a beaucoup parlé ces dernières années. Alors, est-ce que Charonne nous parle de quelque chose qui pourrait nous être utile aujourd'hui ?
Qui aujourd'hui, dans la société française, est encore concerné par Charonne ? Vous l'êtes ? Eh bien, des gens le sont, mais... socialement, vous ne représentez pas une force importante, les communistes non plus. Donc effectivement, Charonne tombe dans un trou, en fait, en ce moment.
Moi, je suis très frappé quand je lis le détail de ces répressions du point de vue policier, de ce qui se passe à la préfecture de police, de la similitude des stratégies à l'égard des manifestations entre celles de Maurice Papon et celle du préfet Lallemand. Les violences qui ont eu lieu à partir du mouvement contre la loi travail, puis contre les gilets jaunes, ce sont des types de violences policières et des stratégies de répression et de maintien de l'ordre qu'on n'avait plus vues depuis la guerre d'Algérie, très précisément, dans un contexte où il y a également la notion de loi d'état d'urgence qui est à nouveau d'actualité. Et tout ça, c'est particulièrement frappant. Alors, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'Élysée, aujourd'hui, n'a pas tellement envie, manifestement, de s'apesantir sur cette commémoration-là.
Le rapport avec aujourd'hui, pour moi, il n'est pas évident, si ce n'est que, à mon sens, la leçon de cette histoire, c'est que même quand on est dans un régime républicain, qui est quand même un régime sous lequel il fait bon vivre, ou en tout cas meilleur vivre que sous d'autres, Il faut toujours être vigilant en réalité. Hein. Les libertés, c'est jamais quelque chose d'acquis. On n'est jamais dans un régime qui respecte ou qui ne respecte pas les libertés. Il faut penser ça comme un continuum, avec l'idée qu'il y a un curseur qui peut se déplacer sur une échelle entre, d'une part, les libertés sont le plus abouties possible et, d'autre part, elles sont le plus en danger. Moi, c'est ça l'analogie que je verrais avec aujourd'hui. Il faut toujours être vigilant pour essayer de garder le curseur le plus possible du côté de la sauvegarde des libertés quand on est dans des périodes où il a tendance à aller dans l'autre sens.
Mes parents m'ont appelé Muriel. À se demander si Muriel, c'est pas le nom qu'on donne à la mémoire qui échoue à mourir et qui revient hanter le présent.
On a vécu tout ça.
Mais c'est une période très riche.
Une période ajustée.
Bah, intéressante, hein, en tout cas.
Mon père, José Luis, est mort en 2020 et cette pièce lui est dédiée.
Au flux et à mesure, le magazine de Jet FM, du lundi au vendredi à 18h. Vendredi, des productions indépendantes et militantes d'ici et d'ailleurs.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux et à mesure. Vous venez d'écouter la création documentaire Sharon de Muriel Kaes. L'audio et l'article qui l'accompagnent sont à retrouver sur le site jetfm.fr. À suivre, les détricoteuses. Bonne soirée sur Jet.